point de départ de travail d'analyse, c'est le fait que un certain nombre d'écologistes disent que la démocratie n'est pas appropriée pour prévenir la crise écologique. Ils disent qu'il y a une crise écologique, et ce, il n'y a pas qu'eux qui le disent, c'est le point de départ de la réflexion des écologistes. Il y a une crise écologique qui est extrêmement importante, on y reviendra sans doute. Elle suppose, pour éviter son aggravation, une transformation profonde de nos systèmes économiques, culturels et sociaux. Et cette transformation va impliquer un changement d'habitude dans les façons d'être, dans les façons de vivre, particulièrement dans les pays occidentaux d'Europe et d'Amérique du Nord, extrêmement important. Et ça, c'est en quelque sorte un socle commun sur lequel tous les écologistes peuvent se retrouver. Mais après, quelques-uns disent, eh bien, c'est tellement difficile que ces transformations, ces changements d'habitude, qu'en démocratie, ça ne sera pas possible. Et donc, il faudra un autre système. Alors, ça peut être des gens d'une manière indirecte, comme Dominique Bourg, de manière tout à fait claire, quelqu'un comme James Lovelock, qui est le créateur de la théorie Gaïa. Donc, c'est des gens pour lesquels, au demeurant, j'ai de l'estime, mais je pense qu'ils font une erreur grave dans leur analyse, c'est qu'ils partent de l'hypothèse que nous sommes en démocratie. Et cette hypothèse est fortement contestable. C'est-à-dire, même si les formes extérieures de la démocratie représentative sont toujours là, un très grand nombre de faits attestent que l'esprit de la démocratie est très profondément altéré. Alors, un signe passant, à mon sens, en a été le fait que, alors que, au moment du quasi-affaissement du système financier, en fin 2008, ah ben voilà, et donc voilà, on connaît toute l'histoire, hein, ça a failli s'écrouler. Le système a été sauvé parce qu'une intervention de la puissance publique par la mobilisation du crédit et de l'épargne publique qui, au demeurant, était nécessaire, parce que si ça s'est écroulé, ben, ça se serait vraiment écroulé, toute l'économie se serait écroulée. Et donc, on aurait pu attendre que, puisque le système financier, par son impérité et ses comportements spéculatifs, avait conduit au bord de la catastrophe, eh bien, on le reprendrait en main pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et qu'est-ce qui se passe deux ans après? Eh bien, tout est revenu comme avant, comme essentiel. Les banques sont toujours aussi puissantes, les bonus continuent à atteindre des niveaux stratosphériques, voilà. Les agences de notation sont toujours aussi... Donc, on est là dans quelque chose qui manifestement ne fonctionne pas et qui permet de souligner à quel point la puissance financière a acquis précisément un degré de puissance tout à fait nouveau dans la période récente. Alors, juste un indice par rapport à ça. Bon, on a beaucoup parlé de la Grèce l'année dernière, on va en reparler, quasiment le même exemple pourrait être après pris avec l'Irlande. La Grèce est un pays qui a un PIB, un produit intérieur brut de l'ordre de 200 milliards de dollars. Les 10 premières banques mondiales, dont certaines d'ailleurs sont venues au chevet de la Grèce l'année dernière, les 10 premières banques mondiales ont chacune une quantité d'actifs de 2000 milliards de dollars. C'est-à-dire que chacune des 10 premières banques mondiales pèse 10 fois plus qu'un pays comme la Grèce, qui est certes petit, mais enfin qui n'est pas non plus absolument négligeable. Et donc là, on voit à quel point il y a une disproportion qui s'est établie entre le pouvoir de la finance et de la banque et le pouvoir des États. Alors, ça se traduit notamment par le fait que les agences de notation, notamment, dictent finalement leur politique économique aux États. Les agences de notation, ben, je pense que c'est assez familier maintenant à tous, c'est des sortes d'entreprises auto-instituées qui donnent des notes aux entreprises, et puis maintenant aux États, aux grandes entreprises et aux États, et selon la qualité de la note, eh bien, alors ça sera noté AA++, BBB++, BB-, etc. Selon la qualité de la note, ces entreprises ou ces États pourront emprunter sur le marché financier un taux d'intérêt plus ou moins élevé. Et donc quand on a des dettes et des besoins d'emprunt sur les marchés financiers qui s'élèvent à 100 milliards de dollars et d'euros par an, eh bien, évidemment, un ou deux points d'intérêt, ça a un effet tout à fait considérable. Eh bien, ces agences de notation, qui au demeurant avaient conduit largement, ont été un des instruments par lequel la crise financière a failli se produire, le système financier a failli s'affaisser totalement en 2008, puisque encore, par exemple, deux jours avant la faillite de Lehman Brothers, l'agence de notation continuait à donner AAA++ à Lehman Brothers. Ces agences de notation tiennent toujours le haut du pavé et les disent aux États, par leurs notes, ce qu'ils doivent faire et ont un pouvoir important sur leurs conditions économiques. Un autre aspect important dans la dégradation de la démocratie, c'est le fait qu'il y a une sorte d'hybridation des milieux de la haute décision publique et des milieux de la haute décision économique. Alors, en démocratie, un des caractères de la démocratie, c'est qu'il y a une barrière, en quelque sorte verticale, entre ce qui relève de la décision publique et ce qui relève de la décision économique. Non pas que la décision économique et l'activité économique en soi soit méprisable ou critiquable, au contraire, une bonne démocratie, et c'est une bonne société a besoin d'une économie prospère. Enfin, on considère que ce qui relève de la poursuite de l'activité économique, l'augmentation des profits, du chiffre d'affaires, c'est un autre système de valeurs que celui qui doit profiter aux affaires publiques, parce que les affaires publiques prennent en compte un horizon temporel différent avec les générations futures, ils ont des logiques de solidarité particulière, il y a des questions comme l'éducation qui ne peuvent pas relever du profit. Enfin donc, il y a cette séparation un petit peu entre l'intérêt public et l'intérêt économique. Eh bien, ce à quoi on assiste, et qui d'ailleurs caractérise largement ce qu'on va définir le régime oligarchique, c'est que cette barrière verticale s'est en quelque sorte horizontalisée et qu'on observe qu'il y a un va-et-vient, il y a une communauté sociologique entre une bonne partie des hauts fonctionnaires, des ministres, des élus importants et la haute direction des entreprises ou des banques. Alors, il y a énormément d'exemples qui peuvent se trouver. Alors, j'ai tendance à plutôt prendre des exemples en France, mais la dérive démocratique vers l'oligarchie et caractérise tous les pays occidentaux. Hein. La France, même si on a avec M. Sarkozy un exemple tout à fait intéressant, presque de laboratoire de la dérive, ça n'est malheureusement qu'un cas parmi d'autres. Mais par exemple, on pourrait prendre, vous avez peut-être noté qu'en janvier dernier, le président Obama aux États-Unis a changé son directeur de cabinet. Il a pris comme directeur de cabinet un dénommé William Dalley. William Dalley, qui était précédemment un administrateur de la JP Morgan, une de ces 10 banques dont je vous parlais précédemment. En France, on trouverait beaucoup d'exemples aussi. Alors, une trajectoire habituelle, on est dans un pays qui a une culture de service public avec une école nationale d'administration, et bien maintenant, une trajectoire sera un brillant énarque qui ensuite intègre l'inspection des finances ou la direction du trésor et qui ensuite va dans le cabinet d'un ministre de l'économie ou des finances où il a supervisé un certain nombre de secteurs économiques ou d'entreprises et puis 6 mois ou 1 an après, à l'occasion d'un changement politique, on le retrouvera à la tête d'une entreprise ou d'une banque qu'il avait précédemment à surveiller. Un cas que j'aime bien dans l'actualité nucléaire de l'époque, c'est celui de François Rousselli. François Rousselli est un haut fonctionnaire tout à fait estimable au demeurant, je crois qu'il avait une carrière bien servi l'État, comme on disait, puis il est devenu président d'EDF, bon, quelques années, et puis il est remplacé, et quelques temps après, on le retrouve vice-président du Crédit Suisse pour l'Europe et chargé des affaires nucléaires. Et il a notamment comme client le Fonds souverain du Qatar, qui a parmi ses objectifs l'idée de prendre une participation dans la firme nucléaire Areva. Or, voilà que ce monsieur Rousselli, qui est donc en pleine confusion d'intérêts, enfin, il va l'être maintenant qu'on lui donne une mission d'enquête. Le président de la République, l'année dernière, lui donne une mission d'information sur la filière nucléaire française et donc le confie à quelqu'un qui est directement intéressé à l'avenir de cette filière nucléaire, puisque son principal client voudrait prendre une part dans une de ses grandes firmes. Alors d'ailleurs, vous rappelez peut-être aussi que ce rapport est resté confidentiel défense, ce qui est assez étonnant, parce qu'après tout, dans un pays comme la France, où le nucléaire a une part extrêmement importante, et où donc tout ce qui concerne le nucléaire devrait être soumis à la délibération publique, et la délibération, ça commence pour la plupart une libre information, eh bien ce rapport était confidentiel défense, et confié donc à un banquier, ce qui est bref. Alors, assez logiquement, dans cette dégradation de l'esprit de la démocratie qui s'est donc traduit par cette hybridation entre la haute décision publique et la haute décision économique, et bien on a la montée de phénomènes d'enrichissement et donc de corruption de manière de plus en plus claire. Alors certes, il y a toujours eu à un degré ou à un autre de la corruption, y compris dans les sociétés démocratiques, mais c'était en quelque sorte un phénomène tenu un petit peu en lisière, qui était marginal, qui ne pénétrait pas au cœur de l'appareil économique. Et puis, quand on parlait de corruption, bah, c'était avec un peu de mépris, parler des pays d'Amérique latine, d'Afrique, etc. Maintenant, la corruption devient de plus en plus banalisée dans le fonctionnement des grands pays occidentaux et européens. Un indice de ceci est le classement qui est établi chaque année par une ONG qui travaille précisément sur ce sujet, qui s'appelle Transparency International, et qui chaque année établit un classement des pays selon l'indice de corruption. Et ce qu'on observe année après année, c'est que eh bien, les grands pays occidentaux progressent dans cette hiérarchie, hiérarchie assez peu honorable. Par exemple, je crois qu'au dernier classement, la France était 17e ou 23e sur à peu près 150 ou 160 pays classés.